Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Ravi de vous retrouver en direct sur nos antennes, en direct du CIMI. Alors, on est à Porte Maillot, hein, au Palais des Congrès. Alors, je ne vous cache pas que c'est la fin. Hein. Le CIMI est en train de remballer. Voilà, c'est notre dernière émission, dernière table ronde. Et on va parler d'un thème, d'un sujet très intéressant, un groupe de travail, de réflexion. Et pour ce faire, j'accueille 4 personnes sur mon plateau. Jean-Marie Moreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coordinateur justement de ce cercle de réflexion qui s'appelle Aspiration. On va en parler dans quelques instants. Avant tout, vous êtes directeur des partenariats publics chez Spirit. En quelques mots, Spirit.
Spirit, promoteur immobilier de toutes les parties prenantes de l'immobilier, sauf les immeubles de bureaux, avec un focus fort sur la question de l'immobilier d'entreprise, des parcs d'activités productifs qu'on installe en périphérie des villes.
Très clair. Avec nous sur ce plateau aussi, Céline Beaujolin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale pour l'association filière Hors-Site France. Alors un petit mot sur cette association, même si on comprend globalement ce que vous faites.
Eh bien, on est une centaine d'acteurs aujourd'hui qui sont des aménageurs, des promoteurs, des constructeurs, des industriels, des architectes, des ingénieurs qui tous pratiquent le hors-site et qui sont convaincus que c'est une solution d'avenir. Et on essaye à la fois d'objectiver, mais aussi d'accompagner la filière construction vers cette pratique.
Mmh. Guillaume Terraillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et alors, pareil, expliquez-nous brièvement votre rôle.
Alors, l'établissement public foncier d'Île-de-France est un établissement public de l'État qui a vocation à aider les collectivités et l'État, notamment c'est des établissements publics d'aménagement, à mobiliser le foncier nécessaire pour porter les projets de logement, notamment de logement abordable, mais aussi de développement économique.
Et puis enfin, André de Pompignan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Spirit Grand Projet, donc j'imagine que c'est une filiale de Spirit.
Effectivement, c'est une filiale du groupe Spirit qui a vocation de travailler auprès des territoires pour trouver des solutions urbaines et les mettre en coordination aussi les différents métiers du groupe Spirit pour répondre à des problématiques de territoire et des enjeux locaux.
Donc nous allons parler du cercle de réflexion, d'inspiration. Donc inspiration, c'est ça, je le montre quand même à nos auditeurs. Parlez-nous, donc c'est la deuxième édition, parlez-nous de ce concept en fait. Comment est né ce concept ?
En fait, il y a 2 ans au CIMI, on a organisé une table ronde avec André pour Spirit Grand Projet, avec 3 élus du territoire.
Oui.
Et on a parlé de la ville de demain et on est sorti un peu frustré de cette table ronde puisqu'on a exposé plein d'idées, on a exposé plein de freins locaux. Et l'idée a été faite de créer ce cercle de réflexion inspiration pour mettre autour de la table le panel 360 des questions immobilières. Du promoteur, représenté par Spirit, des aménageurs, des urbanistes, des architectes, le monde environnemental, le monde juridique et surtout des élus du territoire. On a fait l'année dernière la saison 1 d'inspiration sur le ZAN. On est parti du postulat que le ZAN se mettait en place.
Le zéro artificialisation nette des sols hein, pour nos auditeurs.
Exactement. On partait du principe que le ZAN à horizon 2030 allait se mettre en place et on a voulu travailler sur quels seraient les nouveaux aménagements, les nouveaux usages et les nouveaux métiers liés au ZAN. On a identifié 12 solutions terre à terre et Spirit Grand Projet a mis en place au cours de l'année 2023 5 de ces 12 solutions. Donc chez Spirit, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit.
Donc ça a porté ses fruits. En fait, grosso modo, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous aviez besoin d'un espace de travail, d'un cercle pour partager, pour réfléchir ensemble, pour trouver des solutions, solutions qui ont globalement été appliquées.
Je laisse pas la parole à André.
Non, en fait, c'est vrai qu'on en avait marre de parler un peu en l'air et on s'est dit, on va vraiment essayer d'être dans le concret et d'avoir des solutions qui soient communes en fait aux différents acteurs.
Un peu comme le CNR en fait.
Peut-être, oui. Ouais. Voilà, oui.
Enfin, qui a moins porté ses fruits, mais.
Là, ce qui est bien, c'est qu'on y va pas à pas en fait. On se donne pas une tâche trop énorme et on essaie de construire des briques qui soient des briques communes. Auxquels on croit en commun, politique, promoteur, concepteur, et on les met en application.
Et réalisable,
du coup. Et réalisable, voilà. Ouais. On veut vraiment, c'est ce que disait Jean-Marie, on veut vraiment faire ce qu'on dit, et pas que ce soit seulement des vœux pieux ou des.
Oui, parce que ça, c'est facile à faire aussi. Hein.
L'idée, c'est que les solutions soient applicables duplicables sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans une grande ville, qu'on soit en périurbain, voire même sur certains territoires ruraux, en termes de développement économique, par exemple. Voilà, l'angle de réflexion a vraiment été de se dire comment on peut trouver des solutions qu'on puisse mettre aussi bien en œuvre à Paris que dans n'importe quel autre territoire national.
Alors, ceux qui ont participé à la première édition ne sont pas les mêmes que cette seconde édition, forcément, puisque le thème a changé. Là, c'est plus tout à fait autour du ZAN. Expliquez-nous donc la particularité de cette édition.
Alors, sur la saison 2, on a... la saison 1, j'ai oublié de dire que c'était Jean-Philippe Dugouin-Clément qui était notre élu de référence.
On connaît bien.
Le ZAN, dans le cadre du ZRIFEU en Ile-de-France, l'équivalent des Stradet en région.
Alors, il aurait pu aussi faire partie de cette édition, parce qu'il est, très fan du hors-site, Jean-Philippe Dugouin-Clément.
Il est très fan du hors-site, mais il a fallu tourner. Et au MIPIM à Cannes, au mois de mars dernier, on a fait le passage de flambeau entre Jean-Philippe et Grégoire Delastéry, qui est président de l'agglomération de Paris-Saclay, maire de Mency, maire de Palaiseau, pardon, qui nous a gentiment accueillis, enfin qui a accepté de participer à cette saison 2. L'immobilier 4.0, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en 2000, on parlait de la Smart City, on a vu que c'était un sujet qui avait été un peu galvaudé et surtout qui n'a pas été suffisamment mis en place. Et les moyens technologiques ont progressé depuis cette période-là. Aujourd'hui, on a des infrastructures numériques, on a l'intelligence artificielle qui arrive, et on s'est dit que l'immobilier 4.0, au-delà du terme un peu marketing, il fallait y réfléchir sur les usages quotidiens dans la promotion immobilière et dans les attentes des territoires. Et on a travaillé sur 3 items cette année. On a travaillé sur la question justement du numérique, associer le BIM, l'intelligence artificielle dans notre quotidien. On a travaillé sur la question de l'intensité d'usage, comment aujourd'hui faire en sorte que les bâtiments soient utilisés non plus que dans leur destination première, mais utilisables une grande partie de la journée. Un exemple tout simple, un gymnase dans une enceinte scolaire, il est utilisé de 8h30 à 17h. Et pour autant, de 17h, il peut être utilisé par d'autres acteurs, et les week-ends aussi. Et la dernière question, c'était la question de la décarbonation, avec un angle fort et un focus important sur la question justement de l'immobilier hors site. Qui cumule un peu la réflexion de l'intensité d'usage et surtout de la numérisation.
Donc la décarbonation de la construction.
Décarbonation de la construction, exactement.
D'accord. Alors justement, donc comment vous avez sélectionné les personnes qui ont réfléchi ensemble, qui ont participé à ces débats ?
Fallait mettre autour de la table tout le monde. Donc les élus, j'en ai cité un, mais il y avait aussi Camille Jiquel d'Argenteuil, on avait Cédric Pagne-Bamarine de Port-Marly et Denis Larguero de Meudon. On a Eleonore Salma, de Paris 12e qui est venue aussi apporter son focus. L'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre autour de la table les utilisateurs, les constructeurs et tout ce qui va travailler autour de ces deux items. L'aménageur, l'architecte, la filière hors-site, le volet social, le volet économique, le volet environnemental, le volet juridique. On avait 23 contributeurs cette année, on en avait 18 l'année précédente pour travailler sur ces questions-là.
Et alors, justement, par qui commencer ? Qui peut déjà, peut-être sur le premier point, quels sont les conclusions ?
Alors effectivement, je vais m'arrêter sur le premier axe qui est la place du numérique dans cet immobilier.
Donc la Smart City, déjà, petite pour nos auditeurs, parce que vous savez, il faut tout expliquer sur nos antennes. Smart City, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on appelle Smart City ?
Alors Smart City, c'est le projet de développement d'une ville qui s'appuie sur l'ensemble des nouvelles technologies de l'information, de l'intelligence artificielle. Enfin, comment est-ce qu'on utilise le numérique comme un outil pour mieux concevoir et mieux gérer les villes demain ? C'est essentiellement, effectivement, ça, la Smart City. Et c'est vrai que nous, on a réfléchi sur cette question de la place de la donnée, de la data, dans cette ville de demain, avec notamment le témoignage du président de l'Astérie, qui, à l'échelle de son territoire, de l'agglomération de Paris-Saclay, développe un jumeau numérique pour aider, effectivement, les actions de gestion sur les territoires, mieux simuler, par l'exploitation de cette donnée, mieux cibler les différents projets, les différents schémas de développement possibles pour le territoire et voir comment est-ce que cette donnée peut permettre d'être plus pertinent dans l'approche de la ville de demain. Et un autre axe sur lequel on a travaillé, puisqu'il ne faut pas que cette donnée reste un sujet pour les experts par les experts, mais voir comment est-ce qu'elle pouvait diffuser plus largement auprès des concitoyennes et des concitoyens, puisqu'on sait, on en avait partagé ce constat au sein du groupe, qu'il y a quand même une attente très forte de l'ensemble des acteurs de mieux percevoir les impacts des futurs projets que justement la donnée, lorsqu'elle est utilisée dans une portée plus ludique, plus éducative,
pédagogique en fait.
Voilà, exactement, ouais. Peut avoir toute sa part Bien sûr. Justement permettre de donner à voir ce que seront les futurs projets et donc participer à une meilleure acceptabilité, parce que c'est un enjeu clé aujourd'hui, et donc la donnée à sa place pour participer.
Donc
à
en gros, pour faire accepter un projet par les concitoyens, par exemple.
Notamment, ça peut être un levier pour renforcer la concertation, pour là encore donner à voir. On y, quel que soit le thème, c'était une donnée importante au sein du groupe de travail, avoir des choses concrètes, terre à terre, c'était le terme consacré. Et donc justement, que la donnée à sa place pour permettre de mieux visualiser les développements futurs que nous portons.
Alors ça c'était donc le premier axe, hein. Donc vous étiez tous d'accord sur ce sujet ou comment?
Oui, je pense qu'on partageait le constat et le besoin d'utiliser cet élan autour de la donnée, et aussi parce qu'on était, c'est la grande force de ce cercle de réflexion inspiration, c'est que c'est très public-privé. Et on partageait cet enjeu qu'il ne faut pas laisser l'exploitation de cette donnée à une minorité, souvent portée par le secteur privé, quelques grands noms, on ne va pas citer les GAFAM, mais c'est un peu ça que nous avions derrière tête. Et donc, il faut bien qu'on puisse tous l'exploiter, et l'exploiter aussi dans une approche très partagée, très consensuelle. Et donc, ça suppose effectivement de pouvoir mettre en commun la richesse que peut apporter chacun en matière de données.
Alors, oui,
il y avait peut-être deux éléments de prérequis qu'on avait identifiés aussi, c'est l'interopérabilité et donc le partage de cette donnée, donc il y a un peu de technologie là à mettre. Et puis aussi le fait que la donnée, elle est pas toujours maîtrisée, notamment toute la partie passif sur la connaissance que l'on a des bâtiments par exemple. Sur les nouveaux, on peut imaginer parce que le BIM est compatible, mais surtout l'antériorité, il va falloir faire un petit travail de récupération de la donnée. Voilà. Il y avait un peu ces deux éléments de limite.
Et ça va être facile à faire ?
Pas nécessairement, ça demande non plus ça. Il y a un travail, il y a un ticket d'entrée qui n'est pas évident. Mais après, c'est des démarches de progrès. Et je pense que l'idée, déjà, est d'arriver à structurer par rapport au projet.
Vous vouliez réagir ?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça paraît un peu vaste, ce qu'on vous présente. Mais à chaque fois, c'est ramené à des choses très simples et très pragmatiques. Justement, dans un contexte qui est plus élaboré. Mais l'idée, c'est d'arriver sur ce qu'on appelle les solutions terre à terre. Et par exemple... Comme type de solution, on a proposé l'idée d'une micro-forêt connectée.
D'accord.
Donc voilà, ça.
Donc c'est quoi une micro-forêt connectée ?
Bah oui, c'est-à-dire que c'est se dire que en cœur, on en a déjà, on a fait une première en fait à Tremblay en France sur une de nos opérations. Et puis là, l'idée c'est de l'améliorer. Donc l'idée c'est qu'on plante toutes sortes d'espèces là où on a la place en cœur d'îlot. Donc ça peut être un îlot résidentiel ou bien un îlot parc d'activité. Et on y met des capteurs connectés à une application qu'on peut télécharger quand on habite aux environs de cette forêt, et dans laquelle on vous parle de rafraîchissement. Donc on peut voir qu'il fait moins 5 degrés, par exemple, en période de canicule, moins 5 degrés dans la forêt. Donc il faut aller se promener. C'est des choses assez pratiques, en fait. Il y a aussi, ça relève les oiseaux, par exemple, qui vont aller dans cette forêt. Parce que leur champ va être perçu par le capteur. Et donc, à ce moment-là, on peut dire, aujourd'hui, il y avait 3 pinsons, 5.
Ah,
donc,
c'est génial.
Là, c'est revenir sur des choses vraiment très simples.
Ouais, qu'on oublie quand on est en ville.
Voilà, et ça, c'est le numérique, en fait, qui nous permet de faire des choses et finalement de reconnecter des gens qui sont dans le monde un peu irréel et de les remettre dans le réel grâce à ces systèmes.
Peut-être parlez-nous du deuxième axe du coup de travail.
Oui, bien sûr. Le deuxième axe, c'était la question de l'intensité d'usage des bâtiments. Et Céline et va être plus à même de répondre à votre interrogation.
Alors, vous avez pris l'exemple du gymnase. C'est vrai que c'est assez parlant hein, pour le coup.
Ouais, là, il y a une question d'acceptabilité des publics. Enfin, c'est l'idée de dire qu'un lieu, il n'a pas qu'un seul usage et que cette mixité, elle est au service de tous aussi. Hein. Donc, des tiers-lieux, des lieux qui, par nature, ont de la mixité, mais aussi des lieux qui n'en ont pas et qu'il faut arriver à croiser. Alors, on a parlé, je vais revenir sur le terre-à-terre parce que c'est important d'être concret, hein, d'un besoin de diagnostic, c'est-à-dire déjà d'identifier quels sont les usages, mais aussi quels pourraient être les usages complémentaires. Et on s'est dit, de façon assez concrète, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. C'est-à-dire que ça ne marchera que si il y a quelqu'un qui arrive à établir les besoins, les usages, à cadrer tout ça et à faire en sorte que la cohabitation se passe bien. Donc ça a été une deuxième condition. Et puis, on s'est dit aussi, mais si on tire le fil, il faut que dès la conception des bâtiments, on anticipe le fait qu'il y ait des usages distincts, voire qu'un bâtiment... On peut quand même se le dire, aujourd'hui on construit notamment des bureaux, on ne sait pas si ça va rester des bureaux ad vitam aeternam. Donc comment est-ce qu'on anticipe le fait qu'il y a un changement d'usage pour lutter contre l'obsolescence des bâtiments, trop rapide? Bon, et ça, ça passe plutôt par, dans la phase de conception, d'arriver à ce qu'il y ait une possibilité par une anticipation sur les contraintes feu, sur un certain nombre de choses, de faire en sorte que le bâtiment puisse basculer ou servir à plusieurs usages, voire, dans le meilleur des cas, qu'on travaille sur une harmonisation des réglementations.
Donc j'imagine qu'au moment de la construction, ça prendra peut-être un peu plus de temps et ça coûtera un peu plus cher, mais dans le temps, on est gagnant.
Voilà, c'est de la prévoyance, pour ça qu'on l'a appelé l'option de prévoyance, mais c'est l'idée.
Et puis il y a l'existant aussi, et faire un état des lieux de l'existant est important parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui il y a des lieux qui peuvent accueillir d'autres publics. Mais la question, c'est les interrogations sont nombreuses, c'est sur cette co-gestion de l'espace, sur des questions d'assurance, parce que vous n'avez pas les mêmes utilisateurs, sur des lieux qui ne sont pas forcément faits.
Les règles de sécurité
ne
sont pas les mêmes.
Et je voudrais juste rajouter aussi, on voit bien que pour que tout fonctionne, il faut aussi remettre un peu de simplicité et de souplesse dans les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, on a des documents d'urbanisme qui aiment bien la logique un site, un usage. Et donc là, effectivement, il faut pouvoir faire évoluer la manière d'aborder cet exercice de planification aussi pour intégrer.
Pourtant, c'est vous qui représentez le public. C'est vrai que c'est bien que vous disiez ça. C'est marrant que ce soit vous qui disiez ça. C'est quand même. Mais au moins, il y a une prise de conscience chez vous. C'est bien.
Il y a une autre solution terre à terre sur ce thème-là. L'idée, c'est qu'en fait, on a le il faut que les deux usages fonctionnent bien et qu'ensemble, ça crée un surcroît d'usage.
Bien sûr.
Et donc, chez Spirit, on a l'idée de. Et puis, dans ce travail commun, chez Spirit, on va mettre en application en fait, cette idée. C'est de se dire que les copropriétaires, par exemple, d'une copropriété, pourraient être détenteurs d'une partie du pied d'immeuble. Par exemple, je ne sais pas, on a des commerces et une boulangerie appartiendrait à la copropriété.
D'accord.
Et gérée par le gestionnaire des pieds d'immeuble, mais dont le propriétaire de la boulangerie serait la copropriété. Et à ce moment-là, ça ferait en fait des nouvelles recettes pour les copropriétés.
Ah oui,
Alors, ce serait une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ce ne serait pas que des déficits, parce que souvent, les charges, c'est quand même... Et là, à ce moment-là, on pourrait proposer des recettes. Donc ça, c'est des exemples très pratiques qu'on peut mettre en œuvre et qui sont des solutions immédiates qu'il faut intégrer dans nos projets en amont.
Alors, on va parler du hors-site maintenant. C'est vrai que... alors, qui veut commencer?
La spécialiste.
Céline. Alors, peut-être on va rappeler à nos auditeurs ce que c'est que le hors-site. Le hors-site, allez-y, je vous en prie.
Alors, le hors-site, c'est une approche constructive un peu différente du béton coulé. C'est l'idée de dire que l'on préfabrique en usine un certain nombre d'éléments. Ça peut être du poteau, des poutres, on appelle ça du 1D. Ça peut être de la façade, du plancher, c'est du 2D. Ça peut être aussi des éléments modulaires. Ça peut aussi être des salles de bain totalement préfabriquées que vous venez poser au fil de la construction, étage par étage. Voilà, c'est différentes choses. Qu'est-ce qu'on va chercher au travers de ça? De la qualité, parce que ce qui est fait en usine est mieux maîtrisé. On va chercher du délai parce que ça va beaucoup plus vite. On va aussi chercher du prix. En tout cas, c'est la promesse et c'est ce qu'on espère, c'est-à-dire arriver à ce que demain, on arrive à faire du bâtiment environnementalement très pertinent à un prix équivalent à celui d'aujourd'hui.
Et on va chercher aussi une baisse d'empreinte carbone.
À l'évidence, il y a des sujets environnementaux, il y a moins de matière, il y a du biosourcé. En fait, le hors-site permet de mettre en place du biosourcé, du réemploi aussi, parce que c'est difficile de le mettre sur chantier. En revanche, si vous préfabriquez les éléments, c'est beaucoup plus simple.
Et puis de la main-d'œuvre, on va dire féminine, plus heureuse en intérieur. Il y a moins les conditions climatiques.
En fait,
il y a plus de femmes et puis c'est quand même plus facile de former au hors-site que sur les chantiers.
C'est exactement ça. C'est pas les mêmes publics. Ce que vous trouvez en usine, c'est des gens qui n'ont pas un niveau de formation tel que les compagnons très qualifiés. Et puis aussi, c'est des gens qui, parce qu'il y a des machines, parce qu'il y a un certain nombre de choses, vont avoir moins de difficultés à mettre en œuvre. Donc c'est aussi pour nous une forme de réponse à la problématique de la perte d'attractivité du BTP et voilà, de compenser ça par un travail en usine.
Est-ce qu'il y a encore des réfractaires au hors-site ou dans le groupe de travail, par exemple, est-ce que...
Ce qui a été très surprenant dans le groupe de travail, c'est qu'il y a eu une prise de conscience collective au moment où on en parlait. C'est vrai que Céline le rappelait tout à l'heure à notre conférence de restitution, le hors-site des années 60 a très mal vécu. C'est-à-dire que c'était du hors-site de la préfabéton qui venait massivement apporter des constructions pour faire des constructions rapides.
Du sur-mesure, en fait. C'était,
C'était du volume. Ouais. Très clairement, faut dire ce qu'il y a. Et c'est des choses qu'on déconstruit aujourd'hui avec un faible taux de réemploi. Et donc, cette approche de hors-site, elle a dû être prise en compte par les élus qui n'avaient pas la perception de la différence que pouvait être un chantier béton fabriqué sur place et production hors-site. C'est-à-dire que, très clairement, aujourd'hui, le déchet que vous produisez sur votre chantier, il est quasiment nul. Puisque tout le rebut de chantier, il va être fait au niveau de la préfabrication. Donc, quand vous allez avoir un chantier qui va être plus propre, qui va être moins consommateur de déchets, et qui surtout va avoir un délai plus court. Donc, des avantages à la fois pour les élus, pour les riverains, et pour le promoteur, constructeur, sur place.
Compléter les propos de Jean-Marie en disant qu'une des craintes quand même qui est partagée par les élus, c'est la question de la richesse architecturale, la capacité de la construction hors site à leur permettre d'avoir des architectures variées sur leur territoire et adaptées d'ailleurs à la morphologie de leur territoire. Et là, c'est vrai, ça fait aussi un peu le lien avec ce qu'on disait sur le numérique, les nouvelles technologies, le BIM et aussi tous les procédés d'industrialisation permettent aujourd'hui de recréer, de garder effectivement cette richesse architecturale. Et donc, un des enjeux, c'est d'arriver à sensibiliser l'ensemble des acteurs, les élus, mais pas que, c'est vrai aussi pour les architectes, pour tous ceux qui sont habitués à d'autres manières de bâtir, de leur donner à voir qu'est-ce que c'est que la réalité de la construction hors site aujourd'hui. Et un des défis pour demain qu'on a partagé au sein du groupe, c'est cette question essentielle d'avoir des démonstrateurs, de pouvoir effectivement concrètement montrer qu'est-ce que ça donne et que ça répond effectivement aux attentes de l'ensemble des acteurs, en particulier des élus.
Et justement, là, donc, on est en train de le mettre en œuvre. Donc, suite à ces réflexions, on s'apprête à réaliser un projet sur le territoire de l'EPAMSA entièrement modulaire. C'est-à-dire que c'est vraiment un appartement, un module. C'est 70 logements. Alors, ça fait un peu peur quand on dit comme ça parce qu'on a l'impression qu'on va empiler des boîtes et que ça va pas être extraordinaire. Et en fait, alors ça, on est à la radio, alors peut-être qu'on a aussi la télévision. Et on n'a pas, hélas, pas encore les images. On vous les montrera la prochaine fois. Mais on se rend compte que les architectes s'approprient, en fait, vraiment le mode constructif et qu'à la rigueur, les contraintes transcendent un peu les contraintes. Et aujourd'hui, le projet là qu'on a est très convaincant d'un point de vue produit parce qu'il faut pas perte de vue, et c'est ce qu'on avait perdu à l'époque des 60, ce que tu disais Jean-Marie, on avait perdu la notion d'usage. Il faut absolument garder la qualité du produit, la qualité de l'usage. Et on se disait, par exemple, on fait des appartements, ce qui n'existe quand même quasiment pas aujourd'hui, on fait des appartements T2 traversants. Donc là, on se rend compte, au contraire, on crée du surcroît d'usage, encore une fois.
Ah, tiens, c'est la fin. non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Et si je vous rejoins, donc en fait, le hors-site maintenant est possible de manière beaucoup plus qualitative aussi grâce aux outils qu'on n'avait pas dans les années 60.
Toute cette question de numérisation est clairement aujourd'hui le travail qui peut être fait devant son ordinateur pour modéliser les modules, le travailler l'agencement en chantier pour pouvoir faciliter les montages sur le chantier, la production en masse. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de réduire les coûts, mais effectivement, quand vous construisez X modules sur la même base, vous avez une réduction de votre coût facialement. Tout ça nous permet aussi d'améliorer la qualité des produits. Sur le dossier dont parlait André, on va répondre au RE 28 en étant sur du modulaire hors site en 3D.
On est même au-delà du RE 28. Mais ça qui est étonnant. Ouais. En fait, on change complètement. On passe du diesel à l'électrique. C'est vraiment, on change complètement.
Oui, c'est un changement radical. Je crois qu'on a été mis dehors par le salon. c'est l'occasion de conclure. Alors juste, où on peut retrouver vos travaux?
Alors, on peut le retrouver sur le site internet de Spirit, spirit.net/inspiration, sur le compte LinkedIn Inspiration. Vous avez une adresse dédiée, inspiration@spirit.net.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire, il y aura une troisième édition ?
Il y aura une troisième édition. Elle est déjà dans les tuyaux. Le thème et l'élu de référence seront annoncés au MIPIM à Cannes en mars prochain.
Voilà, bah écoutez, on y sera et puis vous reviendrez sur notre plateau pour en discuter avec plaisir. Merci beaucoup à vous quatre.
Merci
de nous avoir suivis pour ce CIMI. On était ravis de vous faire vivre cet événement pendant les 3 jours et vous l'avez entendu, bah voilà, c'est l'heure de la fin. À très vite sur Radio Immo et Radio Territoria.
Le CIMI du 10 au 12 décembre 2024 au Palais des Congrès de Paris en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.